au quotidien.
Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
En République démocratique du Congo, on enregistre chaque année de nouveaux cas d'enfants infectés par le VIH-Sida. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, s'est assigné comme objectif zéro nouvelle infection des enfants d'ici 2015, ce qui nécessite des moyens et une bonne couverture des services de la PTME, c'est-à-dire de la prévention, de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Alors, comment renforcer la prévention, cette prévention la transmission du sida de la mère à l'enfant? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Dr Alphonse Matondo, chargé du programme VIH-Sida au Fonds des Nations Unies pour la Population. Docteur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, nous parlons aujourd'hui de la PTME. Pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, en fait, la PTME, c'est la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Mm-hmm. C'est une stratégie qui a été adoptée dans notre pays depuis les années 1999. Mm-hmm. Et cette stratégie a connu plusieurs améliorations, au point qu'à ce jour, on est même passé de la notion de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant à l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Donc, c'est toute la stratégie qui est mise en œuvre pour que les femmes qui sont séropositives n'arrivent pas à transmettre le VIH à leurs enfants. Et même au-delà, pour empêcher que les femmes ne deviennent séropositives, parce que dès lors que les femmes ne sont pas séropositives, elles ne vont pas transmettre à leurs enfants.
Bien sûr.
C'est toute la stratégie. Mmh. Il y a beaucoup d'aspects. On va échanger sur ça pendant toutes les missions.
D'accord.
En rapport avec le contenu de la stratégie même.
Alors, passons directement au contenu de la stratégie. Nous avons suivi, l'OMS s'est assigné comme objectif zéro nouvelle infection des enfants d'ici 2015. Alors, quelles sont les stratégies adoptées, mises en place pour atteindre cet objectif?
Oui, zéro nouvelle infection, évidemment, ce n'est pas seulement en rapport avec la transmission mère-enfant. Quand l'OMS dit zéro nouvelle infection, c'est en rapport avec tous les modes de transmission, aussi bien sexuelle, aussi bien que la transmission de la mère à l'enfant.
D'accord.
Bon, il faut dire que c'est un objectif. On veut arriver à ça, mais nous savons que dans notre pays, nous avons mis en place un plan dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant, et ce plan va de 2012 à 2017. Nous nous sommes rendus compte qu'en 2015, nous allons avoir encore assez de difficultés et que nous n'aurons peut-être pas atteint tous les objectifs, en tout cas au niveau du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS.
Oui.
La réflexion avait été menée et en 2015, on n'aura peut-être pas atteint ces objectifs-là, mais le plan qui a été établi montre qu'en 2017, si tous les paquets, toutes les ressources sont là, on pourra y parvenir.
Alors aujourd'hui, comment prévenir cette transmission de la mère à l'enfant, une mère qui est atteinte, comment éviter que l'enfant également ne puisse attraper la maladie, le VIH-Sida?
Oui, bon, je pense qu'on peut remonter dans le temps, c'est dommage. On aurait eu la présence d'un collègue de la partie nationale et il expliquerait mieux la démarche qui a été suivie par le pays. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on va en parler.
D'accord.
Je pense que le pays a commencé la mise en œuvre de cette stratégie en 1999. Et en ce moment-là, on a parlé de la prévention de la transmission mère à l'enfant. Mais c'était un schéma de traitement, un schéma qui était assez faible, quoi. On avait juste un produit qu'on donnait, la névirapine, qu'on donnait à la mère.
Mmh. Et, pendant la grossesse?
Oui, pendant la grossesse, oui. On se disait que ce produit devait permettre de réduire de manière significative la transmission de la mère à l'enfant. Mais peu de temps après, on s'est rendu compte que ce schéma ne suffisait pas. On a même parlé après de la PTME+. Parce qu'après, quand on a trouvé que donner le médicament seulement à la maman ne suffisait pas, on a trouvé qu'il fallait aussi faire la prévention chez le bébé qui naissait. Et donc à ce moment-là, la prévention consistait à donner les produits à la maman pendant la grossesse, mais aussi à donner à l'enfant à la naissance. Et En avançant dans le temps, depuis 2007, on a trouvé que cette stratégie-là aussi de PTME+ ne suffisait pas. Il fallait une approche plus globale, une approche plus large. Et là, on a commencé à parler de la PTME compréhensive. En fait, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que c'est tiré de l'anglais. Mmh. Mais en réalité, c'est la PTME, je dirais, globale.
Hein, la PTME qui consiste globale, à faire quoi?
Oui. Dans cette PTME globale, oui. On a défini 4 piliers.
Lesquels?
Il y a le premier pilier qui consiste à la prévention chez les femmes en âge de procréer. Et donc là-dedans, il y a toutes les stratégies connues de la prévention, c'est-à-dire il y a le dépistage, il y a les préservatifs, il y a la sensibilisation. Donc on fait en sorte que la femme qui est en âge de procréer ne puisse pas être en contact avec le virus. Et le deuxième pilier... Oui. C'est la prévention des grossesses non désirées auprès des femmes qui sont déjà séropositives. On se dit que si on prévient les grossesses chez les femmes qui sont déjà séropositives, si ces femmes planifient leur grossesse, c'est-à-dire que s'ils peuvent avoir des grossesses, mais dans des conditions de contrôle, dans des conditions où ils sont très bien suivis, mmh. Eh bien, on va vraiment réduire la transmission. Ça, c'est la deuxième stratégie, deuxième pilier, pardon. Mmh. C'est la planification familiale, en fait.
Ok.
Et puis, il y a la troisième partie, le troisième pilier, qui est maintenant la transmission, vraiment la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est-à-dire que c'est là où l'on donne maintenant le médicament, hein, et avec le nouveau schéma, évidemment. Donc, il faut dire que...
Oui, certains disent que la transmission de la mère à l'enfant s'est fait souvent lors de l'accouchement.
C'est vrai, oui, c'est vrai, mais... Ce n'est pas seulement au moment de l'accouchement. La transmission peut se faire avant l'accouchement aussi. Donc, la transmission peut se faire pendant la grossesse, pendant que la mère porte l'enfant. Mmh. Ça peut se faire pendant l'accouchement et ça peut se faire aussi après l'accouchement, c'est-à-dire pendant l'allaitement. Donc, il y a ces trois moments où la transmission peut se faire. Mmh. C'est pour cela qu'il faut prendre des mesures déjà pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et même après l'accouchement si l'enfant est allaité.
Hein, voilà, donc ça. À part ces... il reste un quatrième pilier, bien sûr.
Le quatrième pilier, là, maintenant, c'est le soin et traitement de l'environnement, de l'entourage de la femme. Donc, on sait, on s'arrête pas seulement à traiter, à faire cette prévention-là, mais maintenant à soigner vraiment, parce qu'aujourd'hui, on sait même que le traitement constitue une prévention. Donc, on doit soigner l'enfant, si c'est nécessaire qu'il soit soigné vraiment pour tout le reste du temps, ou la femme elle-même pour sa santé, ou même la cellule familiale, ou l'entourage, tous ceux qui sont... vraiment, qui sont avec le virus, on peut les soigner à travers le quatrième pilier. Voilà.
D'accord. Nous avons trois auditeurs en ligne. Galvani nous appelle de Mujimai, Ogi Bendelo de Kikuit et Neville Kuminga de Kananga. Vous voulez également participer à cette émission, composée de 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Capi. Bien, nous parlons de la prévention du VIH-Sida, de la mère à l'enfant. Galvani, vous êtes en Boujimaï, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai un peu trois questions à l'école invitée.
Oui.
La première question, c'est celle de savoir quels sont le pourcentage des chances que l'enfant conçu par une maman infectée a pour... C'est les chances que le pourcentage des chances que l'enfant conçu par une maman infectée a pour naître sain. C'est-à-dire... l'enfant qu'il soit naissant.
Ok.
Deuxième question, une fois l'enfant naissant, est-ce qu'il y a le pari déjà est gagné ou il peut être infecté pendant la période la période de la petite enfance? Et aussi, la troisième question, est-ce qu'on peut vraiment soumettre un bébé aux antirétroviraux?
D'accord, merci. Ogi Bendel, vous êtes à Kikuit, bonjour. Ogi, bonjour.
Merci, monsieur Alphonse Matondo. Et bon début de week-end à tous les auditeurs.
On vous écoute, Ogi.
Merci, Jody. J'ai bien entendu, monsieur Alphonse. Et maintenant, malgré ce que l'OMS a dit, zéro nouvelle infection des enfants d'ici 2015. Bon, tout ce que notre invité vient de dire là, peut-être au niveau urbain, c'est bien. Mais au niveau rural, monsieur Jody, c'est un peu difficile. Parce que nous avons parcouru des recoins de la République où nous avons trouvé... des centres de santé et postes de santé très archaïques, où on est en train de diriger des accouchements dans des conditions vraiment très bizarres. Alors je voulais poser la question à notre invité, ce qu'il est en train de dire là, tout le monde n'a pas cette connaissance-là. Alors comment est-ce que les autochtones, ceux qui sont vraiment dans des milieux très reculés, pourront avoir la connaissance de diriger des accouchements pour que la transmission ne se fasse pas de la maman à l'enfant lors de l'accouchement? C'est ce que j'ai voulu savoir, M. Jésus.
Merci. Neville Kuminga, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
J'ai suivi notre invité avec intérêt.
Oui.
Il dit, on est en train de chercher à passer de l'étape de la prévention à l'éradication, si je l'ai bien suivi. À part, je ne vais pas vraiment poser une question de forme, hein, c'est aussi une question de forme. Est-ce que, à part cette technique qu'il a utilisée maintenant, parce que ce que vous faites à la radio, c'est une vulgarisation, c'est une sensibilisation. C'est pas tout le monde qui a un poste récepteur, ok? Tout le monde n'écoute pas la radio. Quelles sont les autres actions qui sont menées par rapport à ça pour prévenir et pour arriver à éduquer les masses, à part la technique de diffusion par radio? Et surtout que la radio, vous savez, il y en a qui n'écoutent même pas. Et l'émission passe en français, ok? L'émission passe en français, il y a des gens qui ne connaissent pas les français, qui ne comprennent pas les français. Moi, je suis à Kananga. Qu'est-ce qu'on a préconisé en dehors de ces actions
Merci.
Qui sont menées,
Merci, hein,
de ces actions,
d'accord.
Ce que vous faites maintenant.
D'accord. Merci Neville Kuminga.
Ok. Qu'est-ce qu'on fait?
D'accord, merci pour la question. Merci pour toutes vos questions, fidèles auditeurs. Si vous voulez également participer, composez les 081-890-63-94. Docteur Alphonse, vous avez la parole.
Oui, il y a beaucoup de questions intéressantes.
Oui.
Bon, on va avoir certaines réponses. Et peut-être que d'autres collègues aussi qui sont en train de suivre l'émission pourront avoir des éléments à compléter dans
votre réponse. Le premier intervenant dit, l'enfant qui naît d'une mère séropositive, combien il a de chances, quel est le pourcentage des chances qu'il a pour naître sain?
Ok. Aujourd'hui, en RDC, la situation est telle que la transmission, le taux de transmission de la mère à l'enfant a été estimé à 38%. C'est-à-dire, avec le mécanisme qui existe, il y a encore ce taux-là. Et on voudrait passer du taux de 38% à moins de 5%. C'est-à-dire qu'avec une prise en charge qui est correcte, c'est-à-dire avec la stratégie de la PTME appliquée correctement,
oui,
on réduit la probabilité à moins de 5%. Hein? Donc c'est ça, on ne peut pas dire qu'avec la PTME on réduit vraiment à zéro, mais on réduit à moins de 5%.
De 5%.
Si c'est à moins de 5%, on a déjà atteint un objectif assez appréciable. C'est ça d'ailleurs l'objectif,
d'accord,
réduire le taux de transmission à moins de 5%. Pour le moment en RDC nous sommes autour de 38%.
Bien, alors il dit le pari, est-ce que lorsque l'enfant naît sans la maladie, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que le pari est gagné?
Non, ce n'est pas gagné, parce que je dis que la transmission peut se faire pendant la grossesse, pendant l'accouchement, mais aussi après l'accouchement, à travers l'allaitement. Et
oui,
donc, le pari n'est pas gagné. C'est pour cela, justement, qu'on donne maintenant les antirétrovirus. Et ça, je réponds déjà à une autre
oui,
question.
Oui, il dit, est-ce qu'on peut donner les antirétrovirus au bébé?
Oui, exactement, parce que dans les cas de la transmission, on donne à l'enfant pendant 4... D'ailleurs, le premier schéma, on disait, si la femme allaite, on va donner jusqu'à une semaine après l'arrêt de l'allaitement.
Mmh.
Hein? Et avec le schéma actuel, on dit on peut donner jusqu'à 4-6 semaines. Donc, on donne le produit à l'enfant aussi.
Okay.
Ça, c'est le schéma actuel.
D'accord. Alors, avant de poursuivre, nous avons trois autres auditeurs qui attendent. Laguila nous appelle de Kalemi, Daniel de Kinshasa, Rachel de Isiro. Laguila, bonjour.
Bonjour. Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour, l'invité.
Bonjour, Laguila. On vous écoute.
Merci beaucoup. Hein. J'ai seulement une seule question et une autre question en dehors de l'émission. Voilà. Est-ce que l'enfant qui est né avec le sida, il peut être soigné pour combattre ce sida? Et si on peut combattre, et comment peut-on, est-ce qu'on peut donner le régime alimentaire à cet enfant qui est né avec le sida lorsqu'il va grandir au cours de son grandissement? La deuxième préoccupation, est-ce que qu'une personne qui a souffert de cystite pendant 5 ans, on vient de l'intervenir, mais les symptômes se manifestent.
Pardon, vous dites
elle
que pardon,
le cancer.
Pardon, vous parlez de alors, quelle maladie? On parle aujourd'hui de la PTM, de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant. Alors restez dans les créneaux, dans
oui,
les domaines.
Oui. La première, j'ai dit ceci, la question, est-ce que l'enfant qui est né avec le sida, il
oui,
peut être soigné pour combattre ce sida? Et si
d'accord,
on peut le combattre, quoi serait en tant que son régime alimentaire?
D'accord, deuxième question.
La deuxième question, excusez, je dis, est-ce qu'une personne qui a souffert de cystite pendant 5 ans, on vient de l'intervenir, mais...
Qui a souffert de quoi? Qui a souffert? Laguila, qui a souffert de quoi?
Il a souffert de cystite, les cystites. est-ce qu'il peut subir les symptômes de quoi, du cancer?
Écoutez, bon, on n'a pas bien suivi et on ne parle pas du cancer.
Non, on ne parle pas du cancer. J'ai fait ça, on ne parle pas du cancer. Moi, je dis, il y a une question qui est en dehors un peu de ça.
Alors, non, si c'est une question en dehors du thème d'aujourd'hui, désolé, on ne pourra pas vous répondre aujourd'hui. Donc, rappelez-nous plus tard ou envoyez-nous un SMS pour la poser. Merci, la Guillois. Daniel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai à l'invité concernant le sujet de PTME.
Ok.
Bon, d'abord une préoccupation parce qu'avec l'intérieur de notre pays, de là où peut-être on a un peu de connaissances, nous trouvons que les femmes ont souvent l'habitude, quand la maman n'est pas là et que l'enfant commence à pleurer, c'est une autre maman qui doit venir et donner les seins à son enfant pour raison d'aider l'enfant. Alors je voulais demander à l'invité, quel est le pourcentage de la transmission mère et enfant, malgré qu'il y a un auditeur qui vient de poser cette question. Mais je veux voir le pourcentage de cette transmission par le lait maternel de VIH-SIDA et aussi qu'est-ce que le programme a pris en compte pour essayer de pouvoir arrêter ce système-là, que les femmes, la maman qui n'est pas propriétaire de l'enfant puisse allaiter l'enfant de l'autre en cas de besoin. Quelles sont les mesures qui sont prises? Parce qu'avec les objectifs qu'il venait de parler là, d'ici là, nous devons avoir zéro cas ou bien pouvoir éradiquer le sida chez nous. Alors, quelles sont les dispositions pratiques qui sont mises à la page pour essayer de limiter ou bien d'éviter ce système-là chez les mères, surtout dans les milieux intérieurs de notre pays?
Merci, Daniel. Rachel, vous êtes à Isiro, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, on vous écoute.
Oui, j'ai des petites questions à poser à l'invité. La première question, j'aimerais savoir, est-ce que depuis qu'ils ont commencé à protéger les enfants qui naissent souvent avec les mamans qui souffrent du VIH-SIDA, est-ce qu'il y a eu les cas où l'enfant n'a pas été sauvé ou comment? Et la deuxième question, j'aimerais savoir si, supposons que l'enfant soit sauvé, donc que l'enfant il n'est pas contaminé, est-ce que la maman la peut évaluer l'enfant?
Bien, merci. On revient à vous, docteur Alphonse. Il y a Ogui Bendelo qui a parlé du Kikuit où il y a des centres de santé archaïques, s'il faut répondre à ses propres mots. Alors, oui. Alors dans un tel environnement, comment arriver à sensibiliser, comment prévenir, à mettre en place ce programme, la PTME?
Bon, effectivement, nous le savons, notre système de santé est ce qu'il est, il n'est pas à son top niveau. C'est vrai, il y a beaucoup de difficultés, il y a encore beaucoup de problèmes. Nous avons une couverture très basse pour le service de PTME et déjà de lutte contre le VIH dans l'ensemble. Bon, on fait ce qu'on peut faire. Pour le moment, il y a des efforts qui sont faits, il y a un plan d'action qui a été élaboré,
oui.
Mais je vous dis que ce plan-là, pour la période 2012-2017, coûte 475 millions de dollars. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une mince affaire pour que le pays trouve cet argent-là et puisse mener à bien ce plan de lutte en rapport avec lutte contre le sida en rapport avec la PTME. Donc, n'ayant pas toutes les ressources qu'il faut, c'est normal que nous ayons des défaillances. Bon, je n'ai pas vraiment la réponse pour dire qu'est-ce que les pays
vont faire. Au programme national.
Les collègues de la partie nationale peuvent mieux répondre à cette question.
Voilà, et Neville Dekananga dit, vous faites la sensibilisation à la radio, c'est bien, mais il y a d'autres personnes qui n'écoutent pas la radio. Est-ce que vous avez d'autres moyens pour atteindre les gens, pour sensibiliser la population par rapport à cette stratégie PTME?
Oui, je pense qu'il n'y a pas que la radio. Hein. Il y a plusieurs stratégies en rapport avec la communication pour le changement de comportement.
Oui.
Les programmes nationaux qui existent ont mis en place beaucoup d'aspects, beaucoup d'autres stratégies, la communication de proximité. Il y a beaucoup d'endroits, il y a des pères éducateurs qui sont formés pour faciliter la sensibilisation de leurs proches. Il y a le volet communautaire où les ONG sont très très actives, où ils sont vraiment en contact avec la communauté.
Oui.
Donc il n'y a pas que la radio. On essaie de mettre
d'utiliser tous les moyens de communication pour atteindre la population.
Exact.
Voilà. Et il y a également les animateurs comme communautaires qui sont mis à contribution.
Voilà.
Alors la Guillois des Calémies dit, un enfant qui naît avec le sida, est-ce qu'on peut le soigner? Et puis quel régime alimentaire lui soumettre à quel régime alimentaire?
Oui, l'enfant peut bien être soigné à ce que nous appelons la prise en charge pédiatrique. Et nous avons un centre, je dirais presque un centre d'excellence qui existe en rapport avec ça ici à Kinshasa, c'est l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, où il y a un grand projet là-bas de prise en charge des enfants en rapport avec les infections à VIH.
Oui.
Et je n'ose pas dire, voilà le régime qu'il faut utiliser pour cet enfant-là. Non, je pense que la matière est un peu beaucoup plus sensible à ce niveau-là. Chaque enfant représente un cas et il est suivi par des médecins. Ça, c'est, je pense que les cas des VIH pédiatriques doivent être soignés dans un cadre où il y a les compétences voulues. Donc, il ne faut pas dire que voilà, l'enfant, il va prendre le haricot, pas le riz ou ceci ou cela. Je pense que le débat ne doit pas être à ce niveau-là.
D'accord. Bien, alors, ok. Nous avons Lauriane qui examine depuis Kikuit. Lauriane, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour, le docteur Alphonse aussi.
Bonjour.
Oui, j'aimerais poser la question, savoir si l'enfant déjà infecté au niveau du sein de sa maman arrivait à naître et qu'il est atteint. Quelle chance a-t-il, quelle est son espérance de vie? Est-ce qu'il peut vivre longtemps? Si oui, jusqu'à environ combien d'années?
Bien, merci Lauriane. Louboya, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, c'est Louboya Wesley de Kananga.
Quelle est votre question, Louboya?
Je voulais justement demander à l'invité, bon, selon ce que j'ai appris aussi, c'est comme si l'enfant ne grandit pas avec les sens de sa mère, mais néanmoins il se baigne dans les sens de sa mère. Mais comment est-ce qu'il peut être contaminé aussi longtemps qu'il n'a pas le pourcentage du sang de sa mère, pour que c'est le sang du papa qui a un grand pourcentage? Et en plus de cela, il y a le problème de quoi? On dit que le virus du sida est dans le sang. Mais nous trouvons que le spermatozoïde, comme gamète mâle, n'est pas un sang, c'est un simple liquide. Comment l'enfant peut être atteint lors de l'accouchement? C'est ça la question que je voulais aussi poser à notre invité.
Bien, merci. On revient à Daniel de Kinshasa qui a dit tout à l'heure, docteur, une maman, il y a certaines pratiques. On donne l'enfant d'une maman à une autre pour l'allaiter. Peut-être que sa maman n'est pas dispo ou elle est déjà décédée. Alors, cette pratique-là, est-ce qu'elle n'était pas, il n'y a pas de risque par rapport à ça?
Oui.
Et quel est le pourcentage des transmissions par le lait maternel?
Voilà. Je pense que c'est vrai, c'est une question, un problème délicat. Je pense que ces cas-là arrivent dans nos sociétés, c'est courant. Mais avant de confier un enfant à l'allaitement par une autre mère, il faut connaître l'état de santé de cette femme-là. Je pense que c'est imprudent de confier l'enfant à l'allaitement par une mère qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l'état de santé. C'est vraiment imprudent. Mmh. Donc, avant de prendre une telle décision pour dire, voilà, il y a un enfant qui est né, sa mère n'est pas à mesure d'allaiter, on veut confier cet enfant à l'allaitement par une autre mère, je pense qu'il faut d'abord connaître l'état de santé, et ça doit passer par un avis des personnes attitrées, le corps médical. Sinon, si quand ça s'est fait dans l'anarchie un peu comme ça, c'est dangereux, il y a des risques, effectivement.
Donc, et l'enfant peut être atteint par cette voie?
Oui, oui.
Prenant le lait maternel.
Exact. C'est pour cela que, justement, après la naissance, on va donner les traitements à l'enfant aussi dans les cadres de la prévention. Évidemment, le taux de transmission est assez faible. Je ne voudrais pas donner un chiffre, mais je vous ai dit que lorsqu'on n'a pas un mécanisme vraiment fiable de prévention, on est autour, comme notre situation, autour de 38% dans notre cas du pays, de transmission. Vous voyez un peu. Mais quand on met en place toutes les mesures dont on a parlé là-bas, on réduit jusqu'à moins de 5%. Hein? Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'on ne réduit peut-être pas, dans tous les cas, jusqu'à 0%, mais en tout cas, on réduit à un niveau tel que la transmission n'est plus significative.
D'accord. Et Rachel revient sur une mère séropositive, peut-elle allaiter l'enfant ou pas?
Mais oui. Une mère séropositive peut allaiter l'enfant. Mmh. Et j'ai dit que la mère qui est séropositive, qui a été dépistée et qui accouche de l'enfant, l'enfant est né. Il y a des schémas où nous avons proposé, où l'OMS a proposé, ça c'était peut-être on ne va pas en parler aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle option A, option B, option B+. Et il y avait des schémas où la mère peut allaiter l'enfant et l'enfant est sous prévention, sous un produit, et il va continuer avec ce traitement-là jusqu'à une semaine après l'arrêt de l'allaitement. Et dans un autre schéma, et ce sont des schémas qu'on est en train d'appliquer maintenant, on allaite l'enfant et on le met sous traitement jusqu'à 4-6 semaines d'allaitement. Et il y a des cas où simplement on n'allaite pas l'enfant. Mais parce qu'il y a des situations où l'enfant qui n'est pas allaité court plus de risques de mourir dans d'autres, pas seulement du VIH, mais les études ont montré que dans nos pays sous-développés, dans nos pays à ressources limitées, un enfant qui n'est pas allaité, c'est un enfant qui est beaucoup plus fragile. Hein? Et l'enfant qui est allaité, et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous parlons de l'allaitement exclusif au sein, parce que l'enfant qui est allaité au sein, c'est un enfant qui résiste mieux à beaucoup d'infections.
D'accord.
Et c'est pour cela qu'on ne peut pas dire d'emblée comme ça de ne pas donner l'allaitement. Donc, parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent.
Oui. C'est possible d'allaiter son enfant, mais les deux doivent être suivis.
Voilà, exactement.
Lauriane nous dit, est-ce qu'un enfant qui naît atteint du VIH-SIDA, quelle est son espérance de vie?
Je n'ai pas le chiffre, je n'ai pas le chiffre exact pour dire que l'enfant qui naît aujourd'hui, son espérance de vie est d'autant. Il est vrai que l'enfant qui est né séropositif aura une espérance de vie moindre probablement par rapport à l'enfant qui est né sans infection, quoi, parce que le VIH constitue déjà un risque, c'est un problème. L'enfant peut arriver à développer la maladie et donc, du coup, cela peut réduire sa longévité. Mais je pense que ce qui est important, ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il y a le traitement qui existe et nous avons l'opportunité d'accéder à ce traitement. Il faut que les gens sachent qu'un enfant qui est né séropositive peut être suivi, peut être soigné et peut mener une vie de qualité améliorée, normale, pourvu que tout soit là, tout soit mis en place.
D'accord. Et Loubo, il y a des cas, on nous dit, il ne comprend pas comment l'enfant a les soins de son père, comment arrive-t-il à attraper la maladie. Et il dit, si vous pouvez lui expliquer, il veut comprendre comment s'est fait la transmission de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement.
Bon, ici, on risque d'entrer vraiment en profondeur de la physiopathologie.
Oui, ça peut être compliqué.
Mais, oui. Mais il est vrai que, parce que j'ai entendu la parler des spermatozoïdes, il est vrai que le spermatozoïde en lui ne contient pas le virus. Donc, la cellule mâle, la cellule spermatozoïde en lui ne contient pas le virus. Le virus est en dehors des spermatozoïdes. Ce qui signifie que quand il y a la fécondation, ce n'est pas le produit, ce n'est pas à ce moment-là que le produit est contaminé. Ce n'est pas le produit de conception n'est pas contaminé parce que le virus ne se trouve ni dans l'ovule, ni dans le spermatozoïde.
Okay.
Donc, ça, c'est ce qu'il faut dire. C'est pour cela qu'il y a des techniques aujourd'hui où une femme séropositive, un homme, bien que séropositive, peut arriver, quand ils sont encadrés, il y a des techniques qui existent pour qu'il peut avoir un enfant avec le risque réduit vraiment.
Maintenant, la contamination s'est faite à quel moment?
Bon, j'ai dit c'est pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, pendant l'allaitement. Il est vrai que pendant la grossesse, même s'il n'y a pas, l'enfant ne baigne pas dans le sang, ce n'est pas le contact direct du sang qui fait la transmission. Non, mais nous savons que...
Et c'est le fait de baigner dans le liquide amniotique, non plus.
Mais nous savons qu'il y a un mécanisme de transfert entre l'enfant et la maman qui s'est fait au travers du placenta. Hein? Nous savons que c'est inséré, le placenta est inséré sur l'utérus, donc c'est ça qui permet la communication. Et nous le savons, on peut avoir aussi à ce niveau-là des échanges ou des frictions ou même des passages qui peuvent se faire à ce moment-là. Donc ce n'est pas à travers le liquide dans lequel baigne l'enfant, mais il peut arriver que par le biais du contact qui se fait à travers le placenta, qu'il y ait passage et que l'enfant se retrouve contaminé. Et ce n'est pas l'unique pathologie d'ailleurs où on peut avoir un cas comme ça, de gens qui naissent avec le virus ou un autre corps, disons, bactérie qui peut passer comme ça. Ça existe.
Bien. Lungele nous appelle de Changungu au Rwanda. Lungele, bonjour.
Oui, merci, c'est la fin. Tout juste, j'ai une seule question que je souhaite demander à notre invité.
Oui.
Je lui pose cette question concernant ce projet-là. Est-ce que le projet sera toujours pour 10 ans ou bien c'est momentané? Parce que nous voyons tout le temps le ministère de Santé est confronté par les changements des ministres. Tout le temps, il y a un ministre qui entre, il change, il y a des arrêtés qui tombent au change des ministres. Est-ce que celui qui entre, il aura encore la mesure d'appuyer sur le projet? C'était ça ma seule question.
Merci Lungele de Changungu, Rwanda. Docteur Alphonse, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, d'abord, ce n'est pas un projet. la prévention de la transmission du VIH labère en France est une stratégie. Une stratégie qui se retrouve dans le plan stratégique de lutte contre le sida. Donc ça ne dépend pas d'un ministre. Le ministre peut venir, il peut passer, mais le plan d'action, le plan stratégique, la politique nationale du pays reste. Et ça, c'est une stratégie qui demeure. Donc ce n'est pas lié à la présence d'un tel ou tel autre ministre, non. Ça fait partie du plan du pays.
Voilà. Un auditeur nous a écrit, il dit ici, comment nous qui sommes loin des hôpitaux, nos femmes séropositives auront accès à ces traitements? Il y a dans certains coins du pays où les gens sont dans certains villages, localités où les gens habitent très loin des centres de santé. Alors il dit, si la femme est séropositive, comment accéder à ces traitements?
Effectivement, c'est ça notre peine, c'est ça notre difficulté. L'idéal serait que toute femme enceinte puisse avoir accès au dépistage. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais il se fait qu'à ce jour, quand je vois les derniers chiffres, c'était autour de 8% seulement de femmes enceintes qui accédaient au dépistage. Donc, vous voyez que
encore
nous sommes
faible,
encore... C'est très, très faible. Donc, il y a beaucoup d'efforts, c'est vrai, qui doivent être faits. Je n'ai pas de réponse à donner. C'est dommage, c'est
oui,
la situation.
Dommage,
mais bon, je pense que le pays essaie de faire ce qu'il peut faire, mais... La situation est
celle-là. Alors, pour prévenir, on revient pour terminer, docteur Alphonse, pour prévenir la transmission du VIH sida de la mère à l'enfant, quelles sont les stratégies à appliquer? Vous avez parlé des quatre piliers.
Oui, oui.
Et à part ces quatre piliers, est-ce qu'il y a d'autres stratégies?
Donc, les quatre piliers regroupent tout. Et si vous voyez très bien ces quatre piliers, d'ailleurs, on peut faire une bonne partie de la lutte contre le sida rien qu'à travers la PTMI. Parce que dans le premier pilier, vous faites la prévention chez les femmes en âge de procréer. On peut aller au-delà, pas seulement chez les femmes en âge de procréer, mais on peut aussi voir leurs partenaires. On peut les atteindre. Donc, du coup, on va faire tout ce qui est dépistage, tout ce qui est sensibilisation et tout ça. On va faire la planification familiale avec le deuxième pilier. On va faire...
Prévenir la grossesse non désirée chez les femmes séropositives, deuxième pilier.
Ouais.
Troisième pilier.
Maintenant, la prévention de la transmission même en donnant le médicament, le produit des ARV à la femme et à l'enfant pendant la grossesse et l'accouchement. Et le quatrième pilier, c'est le traitement, le soin et traitement maintenant de toute la cellule autour de la femme.
De l'environnement.
Voilà.
D'accord. Docteur Alphonse Matondo, chargé du programme VIH-SIDA au Fonds des Nations Unies pour la population. Nous vous disons merci et à la prochaine.
Et merci beaucoup, je vous dis de ma part de cette opportunité. Merci à toi.
Au Capé.